l'écoute de RFI, Radio France Internationale, et je vous en remercie. Il est 2h en temps universel, 3h à Paris.
Mathis Limano.
Dans votre journal, la Géorgie, le pays voté ce samedi. Des législatives cruciales pour son avenir. Les résultats définitifs doivent être connus ce dimanche et entre un rapprochement avec l'Europe ou avec la Russie. C'est dans le giron de Moscou que la Géorgie semble se diriger, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi la riposte israélienne contre l'Iran la nuit dernière. Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Panorama dans ce journal. Et puis au Royaume-Uni, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer d'au moins 81%. D'ici 10 ans. En Géorgie, toujours pas de résultats officiels après l'élection parlementaire qui s'est tenue ce samedi. Seulement des résultats partiels après dépouillement des bulletins de 70% des bureaux de vote. Le parti pro-russe au pouvoir, le rêve géorgien, aurait remporté 53% des suffrages, le plaçant en tête. La coalition pro-européenne de la présidente Salomé Zourabichvili est, elle, créditée de 38,28%. Les résultats définitifs devraient être connus ce dimanche avec le dépouillement des bulletins restants. Résultats qui définiront l'avenir de la Géorgie, se tourner vers la Russie ou vers l'Europe, Régis Jeantet.
Avec 53% des suffrages, le rêve géorgien est pour le moment détenteur d'une majorité ferme, mais loin de la majorité constitutionnelle qu'il disait viser. Côté opposition, 4 formations entrent au Parlement, celles qui ont signé la charte pro-européenne. 2 d'entre elles refusent de reconnaître les résultats, estimant, selon leur propre sondage à la sortie des urnes, avoir obtenu 52% des voix à L4. Elles refusent d'autant ces résultats que le parti au pouvoir a promis de les faire interdire après le scrutin et qu'elles sont viscéralement opposés à un quelconque retour de leur pays dans l'orbite russe. Le scrutin de ce samedi s'est relativement bien déroulé dans la plupart des plus de 3000 bureaux de vote du pays, même si des irrégularités ont été constatées ici et là et que des bagarres ont éclaté aux portes d'une cinquantaine de bureaux. Ce climat tendu qui a marqué toute la campagne renforce le fort climat de suspicion qui règne entre le rêve géorgien et l'opposition. Cette dernière se dit déterminée à défendre son vote dans la rue dès l'annonce des résultats finaux. Régis Jeantet, Tbilissi. RFI.
Et au Japon, c'est ce dimanche qu'on vote. 100 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les législatives. Un scrutin à enjeu. Selon plusieurs sondages, la majorité absolue est loin d'être garantie pour le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba. Son parti, le PLD, est ébranlé par des scandales à répétition. À la une également dans votre journal, la riposte israélienne la nuit dernière contre l'Iran. Des frappes qui ont visé des sites militaires de Téhéran. Elles ont fait 4 morts. Frappes en réponse aux quelques 200 missiles lancés le 1er octobre par l'Iran sur l'État hébreu. La communauté internationale redoute une confrontation directe entre les deux pays. Tour du monde des réactions avec Vincent Danilo.
S'abstenir de toute escalade, voilà ce que demande la France. Même chose pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. De son côté, Washington invoque la légitime défense d'Israël et exhorte l'Iran à ne pas répliquer. Mais après les frappes nocturnes, Téhéran juge avoir le devoir de se défendre. Ces frappes israéliennes ont d'ailleurs suscité l'inquiétude des alliés des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie sont unanimes, condamnation ferme des attaques israéliennes. Le Qatar, lui, dénonce une violation flagrante de la souveraineté de l'Iran. Et dans ce contexte explosif, l'Irak pointe du doigt le silence de la communauté internationale tout en s'indignant du, je cite, « comportement brutal d'Israël ». La Turquie parle même de « terreur » créée par l'État hébreu dans la région. Enfin, le Pakistan, le grand allié régional des États-Unis, qui partage une longue frontière avec l'Iran, estime qu'Israël porte l'entière responsabilité de l'escalade et de l'extension du conflit. Le voisin afghan est sorti de son silence habituel pour dénoncer un risque d'aggravation de la situation régionale.
Et la réaction du chef de l'ONU, profondément inquiet de l'escalade au Moyen-Orient après les frappes israéliennes en Iran. Pour sa part, le Hezbollah qualifie l'attaque israélienne d'escalade dangereuse. L'organisation chiite affirme aussi que les États-Unis en portent l'entière responsabilité. Les États-Unis, un vrai ami, salue le président israélien Isaac Herzog, qui souligne la coopération entre les deux pays. Enfin, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique confirme que les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été touchées. Au moins 50 morts dans le centre du Soudan lors d'une attaque des FSR, les forces de soutien rapide. Les paramilitaires du général Emeti assiègent des villages entiers dans le secteur. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre destructrice entre les FSR et l'armée régulière. Guerre qui a fait, selon les estimations, entre 20 000 et 150 000 victimes. Après l'Angola et l'Égypte, le nouveau chef de la diplomatie ukrainienne termine sa tournée sur le continent, en Afrique du Sud. Il y est attendu ce dimanche. Objectif, renforcer le dialogue avec les pays du Sud. Andrei Sybiha va s'entretenir pendant 2 jours avec des représentants du secteur économique, la communauté ukrainienne locale et avec son homologue sud-africain, alors que la nation arc-en-ciel a récemment réaffirmé ses liens avec la Russie, Claire Bargelès.
Cette visite intervient seulement quelques jours après le déplacement du chef de l'État sud-africain à Kazan, en Russie, à l'occasion du sommet des BRICS. Cyril Ramaphosa y avait alors qualifié Moscou d'ami et d'allié précieux, tandis que Vladimir Poutine s'était réjoui des sphères prometteuses en matière de coopération. Les échanges désormais avec la diplomatie ukrainienne sont donc très représentatifs de la politique de non-alignement défendue par l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre et de sa volonté d'entretenir le dialogue avec les deux camps afin de rester une force de négociation. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit Pretoria à mener une mission de paix africaine l'année dernière aux côtés des chefs d'État du Sénégal, de la Zambie et des Comores. Andrei Sybiha devrait insister auprès des officiels sud-africains sur le plan pour mettre fin à la guerre conçue par le président ukrainien et les échanges devraient également porter autour d'une possible future visite d'État en Afrique du Sud de Volodymyr Zelensky. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Sur le front, Kiev affirme que les soldats nord-coréens déployés en Russie vont commencer à combattre dès ce dimanche. La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'apprête à connaître son 3e hiver. Ce vendredi, le G7 a annoncé un nouveau prêt de 50 milliards pour Kiev, 50 milliards de dollars, une somme remboursée par les intérêts des avoirs russes gelés. Cette question, à présent, les femmes pourront-elles bientôt être membres du clergé? C'est en tout cas ce que laisse penser l'Église catholique réunie en sommet au Vatican. Elle laisse la porte ouverte à l'ordination des femmes comme diacre, la fonction précédente, celle de prêtre. Les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une plus grande reconnaissance de leur rôle au sein de l'Église, a déclaré le pape François. Bientôt la COP29, ce sera du 11 au 22 novembre en Azerbaïdjan. À l'approche de ce grand rendez-vous climat, la Commission britannique sur le changement climatique fait cette recommandation. Le pays doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 81% d'ici à 2035. Le gouvernement travailliste avait sollicité l'avis de cette commission qui envoie donc un signal fort, Jeanne Richard.
Le Royaume-Uni s'est déjà engagé à réduire ses émissions de 68% d'ici 2030, ainsi qu'à atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais le compte n'y est pas, le pays n'a fait qu'un tiers du chemin, selon la Commission britannique sur le changement climatique. Et pourtant, il faut aller plus loin, estiment les experts. Comme les autres pays du monde, le Royaume-Uni doit publier dans les mois à venir son nouveau plan climat, l'occasion de rehausser son ambition, de viser une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre de 81% d'ici 2035, et d'inclure dans ce plan les secteurs aériens et maritimes, très polluants, et pourtant toujours ignoré des politiques publiques. C'est faisable et cela peut profiter à l'économie du pays, écrit le président de la Commission. Voitures électriques, pompes à chaleur, énergie renouvelable, les technologies sont disponibles et abordables, explique-t-il. Un tel engagement pourrait faire à nouveau du Royaume-Uni un leader sur la scène internationale, ajoute-t-il, alors que le précédent gouvernement conservateur avait au contraire opéré un recul sur la politique climatique du pays.
Un porte-parole du gouvernement de Keir Starmer a réagi dans le Guardian en assurant que l'avis de la commission serait examiné attentivement. Du sport pour refermer votre journal avec un classico à sens unique en Espagne, en Liga de football. C'est pourtant le Real Madrid qui avait ouvert le score, but de Kylian Mbappé à la 30e minute, mais refusé pour hors-jeu. Ensuite, le FC Barcelone a déroulé, doublé de Robert Lewandowski en l'espace de 2 minutes. But de l'étoile montante, Lamine Yamal. Et puis en toute fin de match, Rafinha a définitivement douché les espoirs madrilènes en marquant à son tour. Score final du classico Barcelone 4, Real 0. Une victoire des Blaugranas qui leur permet de rester en tête de la Liga. En France, dans le derby du Nord entre Lens et Lille, aucun but jusqu'à la 98e minute, jusqu'à que le Lillois Jonathan David libère les siens sur pénalty. Score final 2-0 pour Lille après un deuxième but de Mohamed Bayo. Les affiches de ce dimanche, le classique en France et non classico, car l'OM reçoit le PSG. En Italie, choc entre le deuxième et le troisième de série, la Juventus se déplace à San Siro pour affronter l'Inter. Et puis cette très belle affiche en Angleterre, Arsenal-Liverpool. En cas de victoire, les Reds peuvent prendre la tête de la Première Ligue. 3h10 ici à Paris, 2h10 en temps universel.